Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et vous écoutez Impact Positif. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement, ils agissent, ils font, ils ont des solutions, les voici.
Nous, on sait qu'au niveau des glaciers, au niveau de la cryosphère, le seuil de basculement est autour des 1,5-2 degrés. On s'en approche, hein, on est déjà à 1,1 degré. Mais ce qui est crucial, c'est surtout de ne pas baisser les bras aujourd'hui. On peut encore changer les choses aujourd'hui. C'est pas du tout le moment de baisser les bras, donc je recommande à tout le monde de se dire, voilà, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais lancer un Repair Café? Est-ce que je vais aller faire du parapente pour récolter des données scientifiques? C'est pas anecdotique, toutes ces solutions. Et surtout, ces solutions qui sont locales, ces solutions individuelles, il faut les mettre en valeur parce que petit à petit, cet effet boule de neige va avoir un impact global.
Quel personnage que cette Heidi Sévestre! Je suis vraiment heureuse de vous la faire connaître. Glaciologue dont les travaux ont été publiés par des revues prestigieuses, elle est un condensé d'optimisme, de détermination et de bienveillance. Une éternelle curieuse qui n'a pas l'intention de rester dans son laboratoire. Elle cherche par tous les moyens de rapprocher la science de notre vie de tous les jours. Face à l'anxiété que peut générer le changement climatique qu'elle constate sur le terrain, une seule solution, l'action. Rendez-vous dans l'Arctique dans quelques semaines pour sa prochaine expédition 100% féminine. Heidi nous raconte tout. Merci beaucoup pour votre soutien, votre écoute, vos commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette troisième saison d'Impact Positif. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Parlez-en autour de vous, notez-le, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 8, un diamant.
Heidi Sévestre, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous consacrer du temps. On est ravis de vous recevoir sur Impact Positif. Vous êtes une femme scientifique, glaciologue, exploratrice même, on peut dire ça, je crois, hein, exploratrice, aventurière.
On peut.
Vous faites en tout cas partie du Explorers Club, qui a été créé il y a plus d'un siècle aux États-Unis. Vous effectuez des recherches sur la dynamique des glaciers dans les régions polaires. Vous êtes docteur depuis 2015. Vous avez étudié à Lyon, en Norvège, dans le Svalbard, mais aussi au Pays de Galles, en Écosse. On vous a vu il y a quelques jours sur TF1 dans un documentaire « Il faut sauver les Alpes » aux côtés de Nicolas Plain, à la fois pour nous montrer les effets du réchauffement climatique dans les Alpes, mais aussi pour parler des solutions qui existent pour protéger cette nature. On va y revenir. On va également parler de votre parcours qui vous a amené dans le monde entier, vos engagements, vos projets. Mais tout d'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment votre métier, quand on est glaciologue aujourd'hui en 2021, que fait-on, sur quoi travaille-t-on et où ?
C'est vrai que c'est pas un métier commun d'être glaciologue, je le comprends bien. En fait, c'est tout simple. La glaciologie, c'est la science qui étudie la glace sur Terre. Donc les glaciers, la banquise, le permafrost. Et moi, je me suis spécialisée dans ces masses de glace que l'on trouve sur Terre, qu'on appelle glaciers. Donc on est un petit peu comme des docteurs. Nos patients, ce sont ces géants de glace que l'on trouve en très haute montagne ou près des régions polaires. Mmh. Et comme des patients qui seraient malades en ce moment, on essaie de comprendre quels sont leurs symptômes, ce que ces glaciers essaient de nous dire. Et surtout, aujourd'hui, on travaille particulièrement sur l'impact du changement climatique sur les glaciers.
Mmh. Sur une région en particulier ou vous déplacez partout là où il y a des glaciers?
Alors, j'essaie d'aller voir le plus de glaciers possible. C'est vrai que je suis une très grande passionnée des régions polaires. Mais maintenant, je m'intéresse aussi aux glaciers qu'on oublie un petit peu, ceux dans des régions reculées, notamment des glaciers qu'on trouve le long de l'équateur, parce qu'il reste encore des glaciers dans les régions tropicales.
Alors, vous êtes née à Annecy, hein, vous avez grandi au sein de cette nature que vous étudiez aujourd'hui. Votre engagement, votre passion, votre carrière, elle vous est venue comment ?
C'est vrai que quand on grandit en Haute-Savoie, déjà quelle chance quoi. On est entouré de nature, de montagnes extraordinaires. Et dès que j'étais toute petite, en fait, je passais le plus clair de mon temps à faire des cabanes dans la forêt ou vraiment à rester en contact le plus possible avec la nature. Et j'ai grandi dans un petit village entouré de montagnes, donc naturellement, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et j'ai découvert assez rapidement l'univers de la haute montagne. Mmh. Et la haute montagne, c'est quand même une autre planète. C'est, on s'habille pour aller dans ces endroits-là, on met des crampons aux pieds, des gants, un casque. On a vraiment l'impression d'être un peu comme des astronautes, de partir ailleurs, de s'échapper.
Oui, de partir en tout cas, oui.
Et en fait, j'ai eu le cerveau retourné la première fois que je suis allée en haute montagne et je me suis dit, oh, j'aimerais bien essayer de trouver un moyen pour passer le plus clair de mon temps auprès de ces glaciers en haute montagne. Mmh. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'en suis venue à la glaciologie.
Mmh. Alors, vous êtes une scientifique reconnue. Hein. Certaines de vos recherches ont été publiées par des magazines prestigieux. Scientifique, donc, vous l'êtes, mais vous n'avez pas voulu rester dans vos créneaux. Hein. Très tôt, vous décidez aussi de parler de votre métier, de ce que vous voyez, de vos recherches, de vos résultats. Vous vous investissez beaucoup dans la communication scientifique. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du rang, finalement ?
C'est exactement ça. C'est vrai que je suis une très grande passionnée du monde de la recherche. C'est pour ça que j'ai fait de la glaciologie aussi, hein, pour vraiment comprendre ce qui se passe, aller récolter des données sur le terrain. Mais finalement, j'avais envie d'aller au-delà de récolter des données, de les publier dans des journaux aussi prestigieux qu'ils puissent être. Je voulais vraiment que monsieur et madame tout le monde, finalement, puissent aussi avoir accès à notre travail. Et aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans le monde de la recherche ou de savoir quel glacier est en train de réagir, à quelle vitesse, quelle est la tonne de glace qu'il peut perdre chaque jour. Et donc, mon travail aujourd'hui, c'est aussi d'être l'intermédiaire entre la communauté scientifique et le monde des décideurs politiques et le grand public. Et ça me passionne tout particulièrement. Je trouve qu'aujourd'hui, les scientifiques comme moi devraient encore plus sortir de leur laboratoire. Mmh. Parce qu'on est tous hyper enthousiastes par nos travaux scientifiques. On adore en parler entre nous, mais aussi, l'important, ce serait d'en parler au-delà de notre communauté.
Oui.
Parce qu'en faisant ça aussi, on aide à faire changer les choses. Et on a un travail d'éducation hyper important par rapport au changement climatique. Donc, il est temps qu'on sorte de notre laboratoire et qu'on rende ça assez accessible.
Mais dans quelque part, que c'est un engagement du coup que vous avez profondément en vous qui vous fait sortir justement de votre laboratoire pour consacrer du temps à ça, aussi du temps que vous pourriez consacrer à vos recherches. Donc du coup, cet engagement-là, vous allez le chercher où ?
C'est vrai que ça a été vraiment une réaction au plus profond de moi-même. Quand j'étais en train d'écrire en fait des articles scientifiques et je me disais, mais finalement, qui va lire ce que je suis en train d'écrire ? Qui va avoir accès à ces données-là ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut creuser, avoir accès à ces données, il faut payer, il faut avoir un certain jargon scientifique, une certaine éducation pour avoir accès à ces données. C'est très compliqué. Et je me suis dit finalement, que je publie ces résultats ou pas dans ce journal, quelle influence ça va avoir sur mes parents, par exemple ? Ben, probablement aucune. Et ça a été vraiment une réaction presque instinctive. Et je me suis dit, bon, allez, c'est finalement, personne ne me pousse à rendre ces résultats accessibles. Donc, il n'y a que moi qui vais pouvoir le faire. Donc, j'ai pris un peu le taureau par les cornes et je me suis dit, allez, banco, on y va.
Ben, cela vous a amené, en tout cas, jusqu'à la télévision. Hein. Votre première aventure télévisuelle, c'est sur France 5, je crois, avec Terres Extrêmes. Racontez-nous comment vous avez débarqué à la télévision.
C'était complètement fou. En fait, j'étais en Écosse. J'étais en train de faire un post-doc, qui est donc le premier contrat à la fin de mon doctorat. Donc, j'étais enseignante-chercheuse dans une super université, bien installée. Mais finalement, la communication scientifique commençait vraiment à me titiller. Et un jour, je reçois un email qui me dit « Bonjour Heidi, est-ce que vous êtes intéressée pour faire un documentaire scientifique ?» Une partie sera au Chili, une autre partie en Islande. On parlera bien évidemment des glaciers. Mais surtout, on veut rendre la science accessible. Ah bah, est-ce que ça vous intéresse ? Alors évidemment, voilà, j'ai réfléchi, je pense, un quart de seconde pour répondre oui immédiatement. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi, déjà de me sortir de mon laboratoire, de pouvoir voyager dans un paquet de pays, de comprendre la science qui se passe dans ces pays-là et d'essayer de donner le goût de la science, d'essayer de rendre ça intéressant et attractif.
Alors quand on est justement glaciologue, ça ne parle pas forcément aux gens. Vous le disiez vous-même, ça ne parlait même pas du tout à vos parents, alors que vous êtes là en interprète, vous pouvez leur expliquer. Ça paraît loin de leur quotidien, il faut raccrocher à leur vie tous les jours. Comment vous faites pour justement essayer de vulgariser, de toucher les gens, de les sensibiliser à vos travaux ?
Alors c'est une bonne question et c'est vrai que autant moi, je pense aux glaciers tous les jours, 24 heures sur 24. Monsieur et madame tout le monde ne vont sûrement pas penser aux glaciers tous les jours. Et mon travail, c'est vraiment d'essayer de remettre les glaciers, ou du moins la cryosphère, donc toutes ces choses glacées sur Terre, dans le quotidien des Français et d'autres personnes ailleurs sur Terre. Donc c'est de leur expliquer, par exemple, que si on a un Arctique froid, donc l'Arctique, ces régions autour du pôle Nord, qui restent aujourd'hui emprises sous la glace, eh bien, cet article-là, il est très important pour nous, pour nos saisons notamment. Si l'Arctique perd de la glace, eh ben on risque d'avoir un bouleversement climatique encore plus amplifié chez nous en France. Donc ça veut dire, s'il n'y a plus de banquise en Arctique, qu'est-ce qui va se passer dans notre quotidien ? Bah, c'est par exemple des saisons d'automne et d'hiver beaucoup plus chaudes. Ça peut être aussi des extrêmes météorologiques qui seront beaucoup plus puissants, c'est-à-dire des tempêtes, des saisons de canicule qui durent encore plus longtemps, ou au contraire, des périodes très froides qui durent encore plus longtemps. Donc pour nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rapprocher les régions polaires ou les régions de haute montagne de notre quotidien, de montrer que finalement, notre vie de tous les jours, elle est directement en contact avec ce qui se passe, même si ça nous paraît très loin.
Alors l'actualité aussi permet d'aider à comprendre. Récemment, la rupture d'un glacier dans l'Himalaya a mis un coup de projecteur aussi sur ce qui se passait dans certains coins de la planète, avec des dizaines de morts aussi dans cet événement. Vous avez dit que c'était une catastrophe d'enjeu global qui était en train de se dérouler en Inde.
C'est terrible et c'est vraiment un événement qui nous a tous touchés. On se rend compte à quel point on est peu de choses finalement par rapport à ce qui se passe vis-à-vis du changement climatique. Ce qui s'est passé en Inde, c'est quelque chose qui est complètement imprévisible. Mais on sait que ces montagnes de l'Himalaya se réchauffent, qu'elles se prennent le changement climatique en pleine face en quelque sorte, et que finalement, ces montagnes se retrouvent déstabilisées sous le coup de l'augmentation des températures. Et ce qui s'est passé, c'est complètement imprévisible. Mais le problème, c'est que ça va se passer de plus en plus fréquemment. Et on remarque que dans ces régions-là, l'humain est directement en contact avec cette cryosphère, avec ces zones glacées. Et que dès que ces zones glacées se déstabilisent, même un tout petit peu, on voit l'impact monumental sur nos communautés. Donc ça a été vraiment un événement qui a eu lieu dans une vallée reculée d'Inde, mais finalement, ça reflète tout ce qui se passe dans ces régions de haute montagne, que ce soit dans l'Himalaya ou chez nous en France.
Oui, parce qu'il y a 3000 glaciers dans les Alpes européennes. Ça peut arriver chez nous aussi ?
Ça peut arriver et ça arrive déjà en ce moment, malheureusement, à cause de la fonte du permafrost de haute montagne, qui est donc un ciment qui permet de maintenir les montagnes telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce permafrost-là, donc, qui est fait de glace, lui aussi se réchauffe, se met à dégeler et suite à ça, on observe des écroulements, des éboulements de plus en plus fréquents dans les Alpes. Et ça touche directement les populations, ça touche directement les infrastructures aussi. Donc, il ne faut pas penser que l'impact du changement climatique, il est lointain, ouais, il est aussi directement chez nous.
Alors, je le disais en introduction, vous avez participé à la série documentaire « Il faut sauver les Alpes » avec Nicolas Plain, qui est à l'origine de cette série, un jeune scientifique parapentiste, aussi plein de talent, qui s'est vraiment démené pour financer et produire ce documentaire. Il a été diffusé pour la première fois il y a quelques mois sur Ushuaïa. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ?
Cette aventure,
hormis le parapente, hein, parce qu'on en parlait juste avant de commencer l'interview, ça a été une expérience aussi pour vous.
Ça a été inoubliable, ce tournage de documentaire, à tout point de vue. Alors, bien évidemment, déjà, la rencontre avec Nicolas, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui peut vraiment déplacer des montagnes. Et ce que Nicolas fait au travers de ce projet, c'est de montrer que quand on essaie de se donner un but, de rentrer dans cette action climatique ou essayer de trouver des solutions locales, concrètes et réplicables face au changement climatique, et bien finalement, ça nous apporte beaucoup de positivité. Et tout au long de ce tournage du documentaire, on a parcouru les vallées des Alpes et on a rencontré que des gens qui peuvent être nos voisins, nos copains d'école, nos collègues de travail, qui font quelque chose à côté, quelque chose qui peut paraître peu, mais qui est finalement extraordinaire et qui fait assez rapidement un effet boule de neige. Toutes ces petites solutions sont en train de se développer, de prendre de l'ampleur. Et j'ai complètement redécouvert les Alpes. Je pensais connaître mes montagnes, connaître mes vallées. Et finalement, j'ai été émerveillée par toutes les solutions qui sont mises en place là-bas.
Alors justement, est-ce qu'il y en a une que vous retenez en particulier ? Vous avez rencontré plein de gens, hein, des apiculteurs, des agriculteurs. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, parce qu'il y a plein de solutions, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué ?
Ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était les actions menées par le collectif Colère Pure, qui travaille beaucoup sur la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Et ils avaient mis en place, et ça a encore lieu en ce moment, des Ripper Cafés. Donc c'est un petit café, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec le Covid, mais on se retrouve tous dans une salle des fêtes d'un village de la vallée, et on amène un objet qu'on a besoin de réparer. Alors, je me souviens amener notamment un grille-pain. Mon grille-pain était cassé, je voulais qu'on le répare. Généralement, on se prend pas la tête, on le jette et puis on en achète un nouveau. Mais finalement, l'empreinte carbone de ce geste est terrifiante quand on met tout ça bout à bout. Et là, l'avantage, c'est qu'on avait des super bricoleurs autour de nous qui avaient qu'une envie, c'est de nous aider à réparer le grille-pain. Et des initiatives comme ça, aussi simples, ça peut vraiment se développer de partout. Donc le Repair Café, ouais, j'ai vraiment un très très bon souvenir. Et, et franchement, que ça fasse un effet boule de neige le plus vite possible, c'est tout ce que je leur souhaite.
Oui, il y en a beaucoup, hein, des Repair Café un peu partout, ça fourmille dans les villes. Bah, Nicolas Plain, il a une question pour vous. Bah, on va l'écouter ensemble et puis vous allez répondre ensuite.
Salut Eddy, donc j'espère que tu vas bien. Et j'ai une question pour toi. Donc, comment on va à Sir à Shackleton et est-ce que ça te dirait de l'emmener voler? Allez, à bientôt.
Alors, on comprend pas tout.
Sacré Nicolas, bah merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est vrai que je viens d'adopter un chat, un Maine Coon, qui devient un géant très rapidement, qui s'appelle Sir Shackleton, nom tiré d'un des plus grands explorateurs anglais, qui a vécu une épopée, une aventure absolument extraordinaire en Antarctique, il y a plus d'une centaine d'années. Et je recommande à tout le monde de lire l'histoire de Shackleton, parce que c'est vraiment une leçon de leadership. Oui. C'est une leçon justement où, quand tout va mal, comment est-ce qu'on peut garder son équipe autour de soi et arriver à faire quelque chose vraiment d'extraordinaire. En fait, en France, on le connaît peu. Mais quand on lit cette histoire, on dit « mais c'est pas possible, quoi ». Et c'est quelque chose qui s'est déroulé il y a 120 ans. Et c'est vraiment, vraiment... à côté, Mike Horn n'est pas grand-chose. C'est sûr. Donc, Sir Shackleton va très bien. Merci, Nicolas. Il grossit beaucoup trop vite. Et je suis pas sûre qu'il soit prêt à faire de l'acrobatie en parapente avec toi. Mais dans quelques années, peut-être.
Et sinon, qu'est-ce que vous en faites de votre chat quand vous partez en expédition, justement?
Alors, j'ai la chance d'avoir un frère très conciliant. Ouais. Donc, j'essaye de transformer ce chat en chat d'aventure petit à petit. Mais il n'est pas encore prêt à tirer un traîneau. Donc, pendant l'expédition, il va rester à Annecy avec mon frère.
Alors, Eddy, votre prochaine aventure, c'est le projet Climate Sentinels. Vous allez traverser le Spitzberg en avril avec 5 autres scientifiques pour récolter des échantillons de neige et mesurer la pollution de la neige de la glace en Arctique. Expliquez-nous ce défi qui sera aussi la première expédition carbone neutre.
Oui, en effet, on a vraiment hâte de partir. Là, on part dans quelques semaines à peine. Et l'objectif, c'était de montrer le nouveau visage des sciences polaires au travers de cette expédition. Alors, c'est pour ça qu'on a une équipe déjà 100% féminine. C'est pas par hasard. On voulait montrer qu'on est là, nous aussi, qu'on existe dans ces domaines qui sont généralement très masculins. Ouais. On voulait aussi montrer que la science, elle peut être faite autrement, même dans les régions les plus extrêmes de la planète. Généralement, quand on regarde un peu plus près, des expéditions, qu'elles soient en Arctique ou en Antarctique, ont une empreinte carbone assez importante. Et on voulait montrer que, bah, finalement, le changement, il commence aussi par nous et qu'on peut faire de la science autrement. Et c'est pour ça qu'on va passer 4 semaines en ski, en tirant tout notre équipement scientifique derrière nous. Ouais. On choisit pas la facilité, mais l'objectif, c'était vraiment de réduire notre empreinte carbone le plus possible.
Sur combien de kilomètres, du coup?
Alors, entre 450 et 500 kilomètres, tout dépend des conditions qu'on aura sur place. Là, on surveille la banquise qui est en train de grossir, parce que là, on est dans la période la plus froide de l'année. Donc, plus on a de banquise, plus ce sera facile pour nous, mais il nous restera quand même pas mal de kilomètres à couvrir, donc en gros 450 à 500 kilomètres.
Comment on se prépare pour une expédition pareille?
Alors, on se prépare beaucoup, là on est en plein dans l'entraînement. Ce que je fais pratiquement quotidiennement en ce moment, c'est que je tire des pneus de voiture en forêt. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais finalement, puisque pendant cette expédition, on va tirer un traîneau qui va peser entre 80 et 100 kilos pendant un mois, le meilleur entraînement, c'est de trouver quelque chose à tirer sur des chemins de randonnée. Donc, les pneus de voiture, voilà, malheureusement, c'est le meilleur entraînement.
Et pour la nuit, etc., comment vous faites pour vous construire un petit quelque chose d'assez chaud?
On va être en itinérance pendant un mois. Alors, on va vraiment changer d'emplacement de notre camp, puisqu'on va camper tous les soirs. Le plus grand danger, alors, c'est pas tant la nuit, parce que début avril jusqu'à mi-avril, qui sera le début de l'expédition, on passe d'une période où il fait nuit 24 heures sur 24 à une période où il fait jour 24 heures sur 24 au Spitzberg. Donc assez rapidement, on va avoir beaucoup de jours. Il y aura pratiquement plus de nuit à la fin de l'expédition. Mais le plus gros risque pour nous, au-delà de la météo, des crevasses, des avalanches, c'est en fait les ours polaires.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'ours polaires. Oui. Il y a plus d'ours que d'habitants sur l'archipel du Spitzberg. Et justement, pendant la nuit, c'est un moment critique. Donc, on va faire des gardes. On va se relayer toutes les deux heures pour surveiller ce qui se passe autour du campement.
Et alors, pour les éloigner, vous faites comment? Je pense que c'est du bruit, hein, c'est ça hein. Vous avez un...
Voilà.
C'est... un pistolet qui permet de les écarter. Je le sais parce qu'Yvan Brognon, qu'on a reçu ici, nous l'avait expliqué.
C'est exactement ça. Alors, on va prendre quand même deux chiens de traîneau avec nous, pas tant pour tirer nos affaires, mais surtout pour sentir ce qui se passe autour de nous. Ils peuvent nous alerter. Hein, ils sont beaucoup plus efficaces que nous à sentir ce qui se passe. Donc, ça va être la première alerte, en quelque sorte, ces chiens-là. Et ensuite, on est armés. C'est obligatoire au Svalbard, au Spitsberg. Il faut déjà avoir des fusées qui tirent, des pistolets qui tirent des fusées. Ces fusées font du bruit, c'est des fusées qui font des bangs. Certains ours ne réagissent pas du tout à ça. Donc on a quand même un autre moyen de protection qui est utilisé en cas de dernier recours. Si vraiment l'ours arrive sur nous pour nous attaquer, c'est un fusil et avec des balles qui sont très importantes, voilà, qui sont faites pour justement attaquer l'ours directement.
Alors, vous n'allez pas au Spitsberg pour rien, hein. C'est un endroit qui se réchauffe 7 fois plus que le reste de la Terre. Est-ce que c'est exact? C'est un peu l'épicentre du changement climatique.
C'est complètement ça. C'est l'endroit en ce moment qui se réchauffe le plus vite de la planète, d'où l'intérêt en fait d'aller là-haut, sur l'archipel du Svalbard, au Spitsberg, pour récolter des données scientifiques. On essaie de comprendre pourquoi est-ce que cet archipel en particulier se réchauffe aussi vite. Et on sait qu'il faut creuser dans la direction de la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique qui flotte dans l'atmosphère, qui peut ensuite se déposer sur la neige et la glace arctique. Et lorsque ces surfaces, qui sont généralement blanches, très claires, qui réfléchissent les rayons du soleil, ben finalement s'assombrissent, se salissent, elles fondent beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce que nos données vont permettre de comprendre.
Alors pareil, vous ne faites pas cela dans votre coin, le tout se fera en collaboration avec des écoles, des collèges, des lycées, le but toujours le même, hein, les embarquer avec vous finalement dans vos recherches.
Ça a été super important. Vraiment, on fait ça, on est poussé en fait par ces jeunes pour être meilleurs, pour rendre ces expéditions le plus accessibles possible. Plutôt que de faire une expédition pour nous, pour les scientifiques, dans notre coin, on voulait rendre notre science la plus accessible possible et surtout diffuser un message positif sur l'action climatique. Les jeunes générations sont très anxieuses par rapport à ce qui se passe, par rapport au changement climatique. Et le meilleur remède face à l'anxiété climatique, c'est l'action. Ouais. Et justement, on veut diffuser un message très positif sur l'action climatique.
On imagine que cela vous prend beaucoup de temps aussi, de travailler avec les écoles. Comment vous vous organisez, finalement?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les écoles ont l'habitude de Zoom, de Skype, ont l'habitude de connecter via les ordinateurs. Donc, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir se connecter avec des écoles du monde entier de façon hebdomadaire. Ouais. La semaine dernière, j'étais en contact avec une école en Australie. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une des écoles de mon canton en Haute-Savoie. Donc, j'étais très contente de pouvoir connecter avec eux. Et l'objectif, c'est d'être à leur côté. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas tant nous, les scientifiques, qu'allons leur apprendre quelque chose. C'est plus eux qui nous apprennent à être meilleurs. Et on ne s'attendait vraiment pas à ça.
Et alors, vous parliez de la jeunesse il y a quelques instants. Justement, on a reçu Camille Etienne. Je ne sais pas si vous la connaissiez il y a quelques semaines sur ce podcast, une jeune activiste du climat. Elle disait, on est dans la décennie où on peut faire basculer ou pas les choses. J'imagine que vous êtes complètement d'accord avec ça.
Tout à fait. On est vraiment au pied du mur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est encore le temps d'agir. Il est encore temps d'agir, il n'est pas trop tard. Mais la fenêtre d'action se réduit jour après jour. Donc l'action, il faut qu'elle soit totale, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit globale. Et je pense que pour comprendre les efforts qu'on va nous demander de faire, il est aussi urgent de comprendre pourquoi est-ce qu'on ferait ces efforts-là, de comprendre ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique. Et c'est là où les scientifiques, justement, ont un rôle très important à jouer. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de réduire notre empreinte carbone? Parce que si on ne le fait pas, voilà tout ce qui risque de se passer.
Alors, vous êtes engagé aussi dans une ONG qui s'appelle l'International Cryosphere Climate Initiative. Au sein de cette ONG, vous militez pour une politique climatique plus ambitieuse. Vous êtes en contact avec des décideurs français. Est-ce que vous leur faites part de vos recherches, de vos observations?
Alors, on est en contact exactement avec des gouvernements, avec des parlements ou des sénateurs du monde entier. Et on essaye de rentrer en contact justement avec le gouvernement français. Alors, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et rentrer par une petite porte et voir si on pourrait justement leur diffuser toutes ces informations scientifiques, leur faire un briefing, comme on a l'habitude de faire avec la ICCI, pour leur expliquer les toutes dernières données scientifiques et à quel point il est urgent d'agir.
Justement, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe en France avec la Convention citoyenne et puis la loi climat qui va arriver bientôt à l'Assemblée ?
Exactement, on en parle beaucoup de la Convention citoyenne, de la loi pour l'action climatique. Ce qui est urgent de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'action, il faut qu'elle soit très, très ambitieuse. Et surtout, il faut que cette action, elle soit inscrite dans les accords de Paris. Donc l'accord de Paris, il nous motive pour rester sous la barre des 2 degrés, voire 1,5 degré, si on peut y arriver. Et ça, il y a une réalité physique derrière ça. C'est-à-dire que si on dépasse les 1,5 degrés, ou si on dépasse les 2 degrés, au niveau de la cryosphère, au niveau des glaciers, malheureusement, il sera trop tard pour revenir en arrière. Donc ces seuils de température, il faut tout faire pour ne pas les franchir. Et d'après les premières recherches que j'ai vues sur cette proposition de loi climat, malheureusement, elle n'est pas assez ambitieuse pour rester sous la barre des 1,5 degrés. Donc c'est le moment ou jamais pour revoir tout ça et essayer justement d'être encore plus ambitieux et de rester sous cette barre des 1,5 degrés.
Allez, le message est donc envoyé. Où vous situez-vous dans les différents courants qui voient le jour face au changement climatique, hein, notamment face à ce courant de collapsologie ? Est-ce que pour vous, vous venez de le dire, il est encore possible d'agir, de changer les choses ? Vous vous situez où par rapport à tous ces courants ?
Alors, je suis quelqu'un de très positive, de très optimiste, et donc je ne suis pas du tout du côté de la collapsologie.
Oui, mais vous comprenez le mouvement,
voilà,
le mouvement
je comprends leurs inquiétudes.
Qui explique qu'il est possible qu'il y ait des effondrements un jour.
Je comprends complètement d'où ça vient, cette inquiétude. Et il y a pas mal de recherches scientifiques qui essayent de calculer justement où ces seuils se situent. Nous, on sait qu'au niveau des glaciers, au niveau de la cryosphère, le seuil de basculement est autour des 1,5-2 degrés. Mm-hmm. On s'en approche, hein, on est déjà à 1,1 degré. Mais ce qui est crucial, c'est surtout de ne pas baisser les bras aujourd'hui. Et j'ai peur que lorsqu'on on va plutôt du côté de la collapsologie, on se dise qu'il est trop tard et on se met à baisser les bras. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, on a besoin que tout le monde se relève les manches et qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose de positif. Mmh. Parce qu'on peut encore changer les choses aujourd'hui. C'est pas du tout le moment de baisser les bras, donc je recommande à tout le monde, au contraire, de se dire, voilà, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je vais lancer un Ripper Café ? Est-ce que je vais aller faire du parapente pour récolter des données scientifiques ? C'est pas anecdotique, toutes ces solutions. Et surtout, ces solutions qui sont locales, ces solutions individuelles, il faut les mettre en valeur parce que petit à petit, cet effet boule de neige va avoir un impact global.
Mmh. C'est dans l'action que l'espoir renaît, c'est en tout cas ce que disait Pablo Servigne, hein, qui est connu pour être l'inventeur de la collapsologie, mais une collapsologie plutôt dirigée vers l'action. Heidi Sévestre, je termine toujours ce podcast par une interview dans l'interview, c'est l'interview des clics et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir scientifique comme vous, surtout dans cette période si particulière de crise sanitaire et environnementale ?
Je dirais être curieux et s'émerveiller des petites choses. Ça, c'est vraiment crucial au niveau scientifique, de toujours se questionner sur ce qui nous entoure.
Quel conseil auriez-vous aimé avoir au début de votre carrière ?
Je pense de ne pas se mettre de barrière et de se dire, en fait, on n'a aucune limite, tant que t'as la passion, continue.
Parce que vous hésitiez, vous aviez...
Bien sûr.
Vous étiez mis des barrières, peut-être,
oui,
tout simplement.
Quand on vient d'un petit village de Haute-Savoie, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas pouvoir partir à l'étranger, rien que pour faire des études ou pour travailler, oui.
Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ?
Bonne question. Alors, j'ai la chance de la côtoyer de temps en temps lors des conférences du climat aujourd'hui, mais j'admire énormément Valérie Masson-Delmotte.
Ah oui ?
Et notamment, elle est très engagée au niveau de la communication scientifique.
Ah oui ?
Et j'aurais adoré pouvoir la connaître au tout début de mes études. Mais maintenant, voilà, j'ai la chance de la croiser de temps en temps.
Voilà, j'imagine que vous la côtoyez régulièrement. Vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si...
Si mes parents m'avaient pas fait confiance, je pense, c'est très important. Je crois qu'ils comprennent, voilà, pas vraiment ce que je fais encore aujourd'hui, mais finalement, ils se sont dit, oh là là, elle a l'air de s'y plaire, on va la laisser continuer dans cette direction-là.
Votre plus bel échec ?
Mon plus bel échec, oulala, j'en ai énormément, notamment...
C'est pour ça que vous êtes si optimiste.
Lors des campagnes scientifiques, quand on est au fin fond de l'Arctique ou au fin fond de l'Antarctique, et que nos instruments se mettent à casser, qu'il fait moins 45 et qu'on est en mode survie, et ben finalement, on apprend à rester très positive et à se dire, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce qui s'effondre autour de moi ? sur quoi je peux me concentrer pour quand même tirer le meilleur de cette expédition-là. Donc ça, c'est vraiment... On apprend beaucoup de ces expéditions scientifiques, ouais.
Ouais, c'est des histoires de vie, finalement. C'est des leçons de vie, ces expéditions.
Oui, à chaque fois, c'est un condensé de vie en quelques semaines, en quelques mois. On apprend beaucoup de soi-même et on apprend beaucoup des gens autour de nous, ouais.
Une qualité essentielle pour entreprendre aujourd'hui ?
Être positive, quoi qu'il arrive.
Et le conseil que vous donnez tout le temps ?
Tout le temps, essayer de tendre la main à ceux qui nous entourent. En fait, c'est toujours en collaborant qu'on arrive à déplacer des montagnes. Et il ne faut pas croire qu'on est tout seul dans notre petite niche. Au contraire, c'est en faisant équipe avec des gens qui sont encore plus talentueux que nous qu'on arrive à faire la différence.
Adi Sévestre, le temps est un bien précieux. Hein. Quand vous en avez un petit peu, qu'est-ce que vous faites ?
Bah, généralement, je m'entraîne pour mes expéditions, donc je tire des pneus en forêt en ce moment.
D'accord. Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent dans ce podcast, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ?
Alors, je leur conseille d'aller directement au cœur du sujet et de contacter des scientifiques. Mmh. Parce que souvent, on se pose des questions, on ne sait pas par quel bout prendre le changement climatique. Et je leur conseille souvent d'aller sur les sites internet des universités, d'aller sur Twitter, sur les réseaux sociaux et d'aller directement contacter les scientifiques. Parce que nous, on adore parler de nos recherches. Oui. Et c'est vraiment le meilleur moyen de comprendre un peu ce qui se passe.
Merci beaucoup en tout cas, Adi Sévestre. Où est-ce qu'on retrouve votre actualité ? Vous avez un site internet, hein, vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux. Donc exactement. On regarde tout ce qui s'y passe et surtout votre expédition qui démarre en avril.
Tout à fait. Alors je vous conseille d'aller sur notre site internet qui est climatesentinels.org et sinon mon actualité est sur adisevestre.com.
Merci beaucoup, bonne route à vous et très très bonne expédition.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Retrouvez-nous dans notre nouvelle rubrique Impact Positif sur lci.fr avec plein d'autres contenus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, sur mon compte, Sylvia Micone, sans oublier Instagram, impactpositif.podcast. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.